Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Dans cette émission Au fil des pages, vous allez pouvoir prendre connaissance de la réflexion du sociologue Jean Bechler, qui vient de faire paraître un ouvrage portant pour titre Les matrices culturelles et pour sous-titre Au foyer des cultures et des civilisations. C'est un ouvrage qui est paru à la fin de l'année 2008, quasiment début 2009, chez Hermann Éditeur. Jean Bechler, bonjour.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir accepté de rejoindre le studio de Canal Académie après une séance de l'Académie des sciences morales et politiques dont vous êtes membre depuis 1999.
Exactement.
Ça fait donc 10 ans. Dans la section, évidemment, morale et sociologie. Alors, vous avez consacré votre carrière à la sociologie, justement, en enseignant cette discipline à la Sorbonne, à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, et dans plusieurs universités, plus précisément à Paris 4 Sorbonne, la sociologie historique. Et vous avez été également directeur de recherche au CNRS dans la section de sociologie et vous appartenez à tous les grands centres de réflexion ou tous les groupes d'études de cette discipline. Alors depuis 2006, vous allez me confirmer si c'est vrai, vous avez quitté l'enseignement pour vous consacrer à la publication d'une sorte de somme dont vous publiez des parties les unes après les autres. Par exemple, votre livre en 2002, Une esquisse d'une histoire universelle, on peut considérer que c'était un premier tome de cette somme ?
Je pense que non, ça doit être le deuxième. Enfin,
alors, quel était le premier ?
Bon, j'ai effectivement pris ma retraite en 2006, tout simplement, parce que j'étais arrivé en fin de carrière. Mais j'ai consacré toute ma vie et toute ma carrière intellectuelle à un projet que j'énoncerai aujourd'hui de la manière suivante. Comment fonder en raison scientifique une étude du règne humain ? Alors, entre nous, et pour dire les choses dans des termes les plus ambitieux possibles, ce serait l'équivalent, si vous voulez, de la théorie de l'évolution pour le règne vivant et éventuellement de la mécanique quantique et de la relativité pour le règne physique. Alors, bien entendu, je n'y suis pas parvenu, mais j'ai essayé de le faire. Alors, toute une série de publications, j'ai beaucoup publié tout au long de ma vie, mais oui, ont toujours contribué, tous mes livres et mes articles ont toujours contribué à ce projet. Alors, j'ai consacré tout mon enseignement de troisième cycle à la Sorbonne, c'est-à-dire pratiquement les 20 dernières années de mon activité, à l'édification de ce qui serait quelque chose comme une somme anthropologique. Et donc, systématiquement, d'année en année, j'en ai élaboré des pans successifs que je ne pouvais pas publier en tant qu'ensemble parce qu'aucun éditeur n'aurait survécu et aucun lecteur ne se serait dévoué. Et donc, je l'ai distribué en plusieurs parties. Alors, l'ordre logique n'a pas été respecté pour des raisons éditoriales, mais chronologiquement, c'est nature et histoire qui est paru, alors là, je crois que c'est en l'an 2000, j'en suis presque sûr, en l'an 2000, qui est un volume de cette somme. Ensuite, Esquisse d'une histoire universelle en est une autre partie. Agir, faire connaître en est une troisième. Et la quatrième s'appellera, qui est en cours de publication, La nature humaine. Alors vous allez me dire, les matrices culturelles, ça vient faire quoi ? Eh bien, ce sont, si vous voulez, des analyses plus particulières portant sur un point plus précis que je n'ai pas voulu développer dans la somme parce que ça devenait, ça devenait trop immense. Et donc, j'ai isolé, si vous voulez, par exemple, j'ai consacré un volume aux fins dernières qui sont parues en 2005, je crois, enfin, ou 2006, je m'y perds un peu. J'ai consacré un volume aux morphologies sociales. Tout ça entre dans le projet général, si vous voulez, mais au titre d'excursus spécialisé dans l'étude d'un point qui exigeait, si vous voulez, d'aller beaucoup plus loin, et c'est le cas des matrices culturelles.
Alors, dans ce livre, Les matrices culturelles, vous développez une théorie et vous l'appuyez sur des faits, parce qu'une théorie qui ne serait pas appuyée, évidemment, ça n'aurait pas d'intérêt. Et vous avancez donc une hypothèse de départ, alors je la trouve résumée dès la première page de votre livre, mais vous y revenez de nombreuses fois dans le courant de votre livre, et je la lis. L'hypothèse exige que soient clarifiés deux concepts, civilisation et matrice culturelle. Civilisation, matrice culturelle, vous consacrez 70 pages de votre livre à développer chacun de ces concepts.
Oui, et de manière très concise.
Voilà.
Il aurait probablement fallu 700. Si vous voulez, mon hypothèse, mais alors ultime, fondatrice, si vous voulez, c'est qu'il y a une nature humaine, mais le propre de cette nature humaine est d'être virtuelle. Et par conséquent, on devient humain et on devient humain dans des cercles culturels de dimensions variables.
Voilà. Elle est virtuelle le sens qu'elle a des potentialités, des virtualités.
Voilà, je vais prendre un exemple tout simple, le plus parlant, le langage. Mm-hmm. Le langage est incontestablement programmé dans notre génome. Nous sommes faits pour parler. Mais dans ce génome ne figure aucune langue. Il faut par conséquent faire l'apprentissage d'une langue, il faut apprendre à parler une langue au contact de locuteurs d'une langue. Tout ce qui est humain peut être interprété dans ces termes. Nous sommes bien entendu obligés de nous alimenter, mais notre génome ne contient aucun plat, aucune cuisine, aucune manière de nous alimenter. Il faut l'inventer, en respectant évidemment un certain nombre de contraintes, puisque cette virtualité n'est pas n'importe quoi, c'est pourquoi il y a une nature humaine. Et donc, nature et culture sont deux concepts qui sont dialectiquement liés, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est une position, je dirais, que j'ai adoptée dès l'âge de 15 ans, si vous voulez, et dont je ne me suis jamais départi. En un certain sens, tous mes travaux ont consisté à vérifier cette hypothèse et à la poursuivre jusque dans ses derniers retranchements. Alors, pour en venir à ce livre spécifique, pourquoi ai-je cru nécessaire de distinguer entre culture, civilisation et matrice culturelle pour étudier la partie culture qui est le complément de la partie nature? C'est assez compliqué, bien tout simplement parce que la documentation empirique que nous livrent les sciences ethnographiques, les sciences historiques, les sciences sociologiques, etc. Enfin bref, toute la documentation sur le règne humain nous démontre à l'évidence qu'il y a des cercles culturels de dimensions extrêmement variables que l'on peut distribuer entre des cultures, appelons-les primitives, c'est un mot auquel, bien entendu, je n'attribue aucune résonance péjorative, mais enfin, première si vous préférez, dont le cercle, si vous voulez, d'exploration de la culture humaine est extrêmement étroite. Ce sont des sociétés de 500 à 1000 individus, parfois quelques milliers tout au plus, d'une durée de vie limitée, l'ordre de quelques siècles, champ d'exploration possible très limité. Donc il y a des cultures, ça n'est pas comparable directement avec les grandes civilisations de dimension continentale, comme la civilisation chinoise, qui s'est développée sur 5 millions de kilomètres carrés pendant au moins 5000 ans, qui a connu des développements les plus variés, mais tout en suivant malgré tout une certaine ligne repérable rétrospectivement. Alors, si l'on admet cette distinction entre petites cultures au sens quantitatif du terme, et grande civilisation au sens quantitatif, on arrive à la conclusion toujours empirique qu'il y a des milliers de cultures et un nombre remarquablement limité de civilisations, entre 5 et 7, si vous voulez, chinoises, indiennes, d'Asie antérieure, c'est-à-dire entre la Méditerranée et l'Indus, l'Asie centrale et l'océan Indien, l'Europe, qui est une réalité culturelle de millénaire, évidemment l'Amérique précolombienne, et alors il y a une hésitation sur l'Afrique en raison de la désertification du Sahara qui commence il y a 9000 ans environ. Il semble semble qu'une grande civilisation en voie de développement aurait donné une civilisation, mais appelons-la berbère, si vous voulez, qui a été abolie par le Sahara, et puis, pour des raisons diverses, une civilisation à peine à l'état incoatif au sud de la grande forêt équatoriale, on pourrait l'appeler bantou. Alors, s'il en admet, et je vois difficilement la possibilité de ne pas admettre ces données purement empiriques, il s'agit de... Et troisièmement, j'ajoute, il s'est passé des choses tout à fait inédites sur une de ces aires continentales, sur une civilisation, dans une civilisation, à savoir la civilisation européenne, où manifestement, depuis les 14e et 15e siècles, toute une série de développements qui ont fini par aboutir au 19e et au 20e siècle ont fondamentalement bouleversé la condition humaine, pas la nature humaine, la condition humaine, au point que, comment dire, les productions culturelles semblent en avoir été affectées en profondeur. Et donc, ce livre sur les matrices culturelles a pour ambition de rendre compte de tous ces matériaux empiriques en distribuant, si vous voulez, les champs d'exploration culturelle possibles en trois ensembles distincts. Une matrice primitive, à l'intérieur de laquelle on peut essayer d'interpréter les sociétés primitives, pour simplifier. Une matrice traditionnelle, à l'intérieur de laquelle il est possible de rendre compte des grandes civilisations. Et enfin, une matrice moderne, mais c'est une simple hypothèse, qui a pour ambition de proposer une interprétation qui me paraît plus juste, peut-être plus originale, de la modernité. Si nous avons le temps, j'essaierai de répondre
d'en parler un peu. Mais ma première question, ce serait de vous demander, est-ce que l'on passe chronologiquement d'une matrice à une autre, ou est-ce que ça peut se développer dans un sens, à un endroit? Est-ce qu'il y a une chronologie? Quel critère pour passer de ces matrices différentes?
Le critère, c'est, si vous voulez, ce que j'ai évoqué, la dimension, si vous voulez. Les dimensions des cultures primitives sont locales ou régionales, si vous voulez, alors que les civilisations sont continentales. La modernité est planétaire. De même, comment dire, dans le monde primitif, toute une série de développements demeure à l'état virtuel, tout simplement parce que les conditions ne sont pas réunies qui permettraient de les faire. Par exemple, dans le domaine économique, enfin, ou dans le domaine technique, il y a un champ d'exploration limité. Tous les besoins humains sont satisfaits. Ce sont des humanités complètes. Je n'ai absolument pas une vision en termes de progrès. La nature humaine est la nature telle qu'elle a émergé sur l'arbre du vivant il y a, on ne sait pas, 100 ou 200 000 ans. La documentation ne remonte guère au-delà de 35 000 ans. C'est la même espèce. Enfin, nous rencontrerions un Cro-Magnon. Si nous réussissions à partager la même langue, nous nous entendrions très bien, enfin, parce que ce sont des êtres humains. Pour répondre plus précisément à votre question, il est clair que, si vous voulez, la transition de la matrice primitive à la matrice traditionnelle a, dans mon interprétation, pris à peu près 10 000 ans. Autrement dit, ce n'est pas un basculement du jour au lendemain. L'émergence de la matrice moderne, toujours dans mon interprétation, a pris 5 siècles. Elle n'a pas déjà abouti à son point final. Donc, ça prend du temps. Alors, il est clair que pendant ces 10 000 ans, il y a des zones entières ou des pans entières de la planète qui en sont restées, si j'ose dire, dans la matrice primitive. Mais à terme, 10 000 ans, c'est rien. Enfin, c'est rien, enfin, par rapport aux milliards, enfin, du cosmos, enfin, donc, toute une question d'échelle et d'appréciation, des talons, si vous voulez. Donc, à terme, je crois qu'effectivement, une matrice remplace intégralement une autre, mais le fait à des rythmes variables en différents points de la planète.
Revenons un instant justement sur cette espèce humaine qui, pour vous, est une espèce comme une autre dans le règne du vivant, mais elle a une caractéristique. Elle est libre par rapport à son programme génétique. Alors, qu'est-ce que cette liberté va faire de différent par rapport à d'autres espèces?
Alors, liberté, je ne vais pas entrer dans une analyse conceptuelle de la liberté, quoique ce soit très, très faisable. Dans votre question, liberté doit être prise au sens de non programmée génétiquement pour développer un certain nombre de caractères qui définiraient l'humanité. Et toutes les autres espèces du vivant sont pour l'essentiel programmées. Un lion se comporte en lion, quelles que soient les circonstances et quel que soit le milieu, qui de toute façon est limité, où un lion peut vivre et survivre convenablement. Alors bien entendu, à la marge, ça n'est pas aussi rigoureux, et l'on sait que les corbeaux, par exemple, enseignent à devenir corbeaux dans des marges extrêmement limitées aux petits corbeaux. Dans l'espèce humaine, les degrés de liberté autorisés par le génome ont franchi un seuil qui fait que ça n'est plus comparable à ce que l'on trouve dans tout le reste du règne vivant. Nous avons à devenir humain. Chaque enfant qui naît devient humain, doit devenir humain, le fait probablement dès le sein maternel, d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, peu importe, avec comme résultat, comme il y a plusieurs manières de devenir humain, le fait que c'est un problème qui se pose. Autrement dit, la liberté humaine rend l'espèce problématique. Nous avons à définir ce que nous entendons par être humain et comment s'y prendre pour devenir ce que nous avons défini qu'il faudrait devenir. D'où la diversité culturelle prodigieuse, d'où des probabilités non nulles d'échec, et donc tous les problèmes, toutes les disgrâces qui caractérisent l'espèce. Mais une espèce qui serait entièrement disgraciée n'aurait pas pu survivre, et donc ce serait une contradiction logique du vivant que de produire une espèce incapable de résoudre ses problèmes. Nous résolvons nos problèmes en nous assignant des fins à poursuivre, et en mettant en œuvre les moyens dont nous sommes dotés pour ce faire, c'est-à-dire en recourant à notre sensibilité, à notre intelligence et à notre volonté. Donc, je résumerai en disant, nous sommes une espèce libre, finalisée, rationnelle, mais faillible.
Voilà, ce sont les quatre caractères que vous attribuez à l'espèce humaine, libre, finalisée, rationnelle et faillible. Et pour avoir les détails, il faudra lire votre livre « Les matrices culturelles », Jean Béchler, publié aux éditions Hermann. Je vous propose que l'on marque une courte pause.
Madame, vous proposez et vous disposez.
Dans un tout petit instant après la musique. Dans notre studio avec Jean Béchler de l'Académie des sciences morales et politiques qui vient de publier Les matrices culturelles aux éditions Hermann. Jean Béchler, vous abordiez tout à l'heure cette hypothèse, l'hypothèse que vous avancez de ces matrices culturelles, l'hypothèse de la modernité justement, celle de la modernité. Pourquoi est-elle particulière? Pourquoi pose-t-elle des questions spécifiques?
J'insiste sur le fait que c'est dans mon esprit une hypothèse. Je défends une hypothèse, mais que j'ai transformée en thèse. Je ne suis pas sûr qu'elle soit exacte parce qu'on ne le saura que dans quelques siècles, rétrospectivement. Il y a trois interprétations possibles, si vous voulez, de la modernité. Personne ne conteste le fait qu'il se passe quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine depuis, moi je fais remonter ça au 14e, 15e siècle, parce que j'ai une formation d'historien, j'ai passé une agrégation d'histoire, après, tout en ayant une vocation de philosophe d'ailleurs, beaucoup plus que de sociologue. Peu importe la date, si vous voulez, mais il s'est passé en Europe des choses qui ont fini par gagner la planète entière.
Alors, quelles choses, par exemple? Alors, la démocratie, vous citez, la science.
Là aussi, je crois que les spécialistes tombent à peu près d'accord pour retenir cinq caractères fondamentaux, sans les classer d'ailleurs, parce qu'ils se tiennent les uns les autres. Effectivement, un phénomène, la science, la démocratie, l'individuation, c'est-à-dire le fait que l'individu est promu au rang de responsable exclusif ou du moins primordial de toutes les activités humaines. Là, ce qu'on appelle, ça c'est plus technique, la différenciation voilà. Des ordres, c'est-à-dire une c'est tendance, quoi. Et ce sont toujours des tendances, bien entendu, pour chaque domaine d'activité humaine, le politique, l'économique, le religieux, le technique, à prendre leur autonomie et à s'efforcer de correspondre le mieux possible à leur logique ou à leur rationalité interne. Je m'empresse d'ajouter que l'espèce étant faillible, les résultats
ça
ne sont
pas toujours.
Non. Dans la meilleure des hypothèses, ça fonctionne normalement mal. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'éviter que ça fonctionne anormalement mal. Et cinquièmement, c'est évidemment le développement économique. pour appeler le capitalisme, enfin le développement économique, que je considère d'ailleurs personnellement comme une conséquence des quatre autres et pour des raisons diverses comme moins fondamentales malgré les apparences et le plus visible, exactement celui dont on parle le plus, mais enfin là n'est pas la question. Donc ces cinq caractères sont tout de même empiriquement, si vous voulez, incontestables. On peut en ajouter d'autres, mais pour l'essentiel, ça couvre l'essentiel. Alors, comment interpréter
ces nouveautés ? Oui, voilà, maintenant, nouveautés. Ça veut dire quoi alors, par rapport à notre situation ?
On a trois hypothèses fondamentales, si vous voulez. Première hypothèse, c'est un développement interne de la civilisation européenne. Ce qui ouvre sur deux sous-interprétations, c'est un développement heureux, en forme d'apothéose, si vous voulez, c'est le progrès. Ou bien une interprétation diamétralement opposée, c'est une pure catastrophe. Et vous avez ça, dès le 19e siècle, vous avez ces deux positions. Alors, c'est européen, mais les circonstances ont fait que ça a été imposé à la planète entière, du moins pour le moment. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est un développement intérieur à la civilisation européenne qui a fini par déboucher sur une autre civilisation. Laquelle civilisation se range à côté des civilisations chinoises, indiennes, etc. Et c'est, par exemple, la civilisation américaine, pourquoi pas. Ou bien, on ne sait pas exactement, mais enfin, c'est en voie d'émergence. Donc, c'est au même niveau, si vous voulez, dans les comparaisons que l'on peut dresser à l'échelle de l'histoire universelle. Alors, j'ai introduit une troisième hypothèse. Je crois qu'elle, je ne dis pas qu'elle m'est exclusive, mais enfin, moi, c'est celle que je défends depuis au moins, depuis une quarantaine d'années, à savoir que la modernisation est l'analogue de la néolithisation. De même que l'humanité est passée d'une matrice primitive à une matrice traditionnelle, elle a mis 10 000 ans à peu près pour passer de l'une à l'autre, avec comme résultat que rien de ce qu'il y avait avant ne permettait de préfigurer ce qui est venu après, même s'il y a des développements à partir de données antérieures. De même, la modernité met en place, pour utiliser un langage plus technique, un nouveau champ de possibles culturels qui sera donné à l'exploration par l'humanité tout entière. Nous sommes entrés, si vous voulez, dans une matrice qui, pour la première fois, aura pour acteur, si vous voulez, l'humanité en tant que telle et non plus des populations particulières, chinoises, indiennes et autres. Alors, si l'hypothèse est exacte, dans cette matrice et dans ce champ de possibles culturels, il y a plein de choses dont nous ignorons tout, à la manière dont, si vous voulez, un paléolithique ne pouvait absolument pas imaginer ce que deviendrait une civilisation chinoise, indienne ou autre. Et donc, dans mon diagnostic, et c'est un diagnostic que je ressens personnellement, si vous voulez, très profondément, je crois que nous sommes sortis de la matrice traditionnelle, que tous les héritages de cette matrice en Europe, en Chine et ailleurs ont subi un mécanisme de ruine, de destruction, d'élimination, que nous autres Européens sont l'avant-garde dans ce domaine, ce qui explique, si vous voulez, beaucoup de choses qui se sont passées depuis cinq siècles, dont on peut estimer que pour l'essentiel, ce n'est pas une décadence, mais c'est un processus, si vous voulez, de, je n'aime pas le mot déconstruction, mais c'est ça tout de même, ou de décomposition, non pas dans le sens de la ruine, si vous voulez, de la décadence, mais dans le sens de dégager le terrain pour permettre l'émergence de quelque chose de radicalement inédit, non pas parce que ce sera mieux, mais parce que c'est le mouvement de l'histoire, si vous voulez, qui fait que, eh bien, on ne peut pas y échapper. Et que nous sommes dans la phase, nous sommes sortis de l'ancien, mais nous ne sommes pas déjà entrés, si vous voulez, dans la phase de production de cette nouvelle matrice. Et donc, nous sommes entre deux chaises, si vous voulez.
Donc, on a encore notre histoire devant nous. L'humanité a son histoire plutôt devant elle, que tout n'a pas été vécu.
Voilà. Si l'hypothèse est exacte, ce sont les prochains siècles et probablement millénaires, enfin, qui diront, bien entendu, nous n'y serons pas. J'aimerais bien, si vous voulez, renaître, je dirais, une semaine, tous les 100 ans, pour voir où ça en est.
Si ça n'est pas ça prévu m'intéresse. Dans les non, théories de la réincarnation.
On me dit, moi, j'ai regardé du côté du bouddhisme, non, ils ne vous promettent pas ça.
Pas vraiment. Non. Ou alors il faut croire à une vie dans l'au-delà d'où vous verriez, qui va s'observer.
Oui, mais on sera
vivre.
Dans l'éternité, et l'éternité n'est pas dans le temps. Enfin, et donc, je crois qu'il n'y a pas de solution.
Bon, donc ça voudrait dire que la nature humaine, peut-être, n'a pas encore développé toutes ses potentialités. Finalement, on est devant un grand mystère.
Voilà, tant que le génome humain sera ce qu'il est, la nature humaine restera ce qu'elle est, je dirais, libre, finalisée. Rationnel et faillible. On ne peut pas savoir combien il y a de matrices culturelles à l'intérieur, à l'état virtuel dans cette nature humaine. Aucune raison qu'il n'y en ait que trois. Il y en a N. Impossible de le savoir, si vous voulez. Alors, est-ce que l'évolution est-elle achevée ? Une autre espèce peut-elle naître de l'évolution de la nôtre ? Je ne peux pas répondre à cette question, bien évidemment. Moi, je m'occupe du règne humain, c'est-à-dire des productions de cette espèce telle qu'elle est apparue sur l'arbre du vivant il y a un certain nombre de dizaines de millénaires. Je ne connais pas l'avenir. Personne ne le connaît. Moi, je le connais tout particulièrement pas, si j'ose dire.
Alors, Jean Béchler, comme toute espèce, finalement, et particulièrement les espèces animales, l'espèce humaine, elle n'a qu'une préoccupation, ce serait sa survie, parce qu'il faut qu'elle survive. Comment fait-elle pour s'organiser ? Comment a-t-elle fait pour s'organiser, pour survivre ? Vous développez aussi tout cet aspect d'organisation.
Alors ça, c'était le volume que j'ai cité, Nature et Histoire, si vous voulez, qui repose entièrement, ça fait 1160 pages, je vous signale, enfin bon, donc d'une lecture assez longue, enfin on en a pour son argent, si vous voulez, où j'ai essayé de repérer, si vous voulez, tous les problèmes. On a repéré une douzaine de fondamentaux qui se posent inévitablement à une espèce libre au sens défini tout à l'heure. Et deuxième étape, comment résoudre ces problèmes et comment l'espèce a-t-elle réussi jusqu'ici à résoudre ses problèmes d'une manière très efficace à l'échelle des millénaires en tout cas. Et donc là, j'ai proposé une théorie de la production, si vous voulez, des histoires humaines et des produits culturels humains, qui est peut-être fausse, mais au moins qui a le mérite d'exister et de répondre d'une manière, comment dire, plausible, je dirais, à ce genre de questions. Comment l'humanité a réussi effectivement à survivre jusqu'ici ? Non seulement à survivre, mais à prospérer. L'espèce humaine est faillible, je dirais. Donc, à l'échelle des individus et du court terme, l'espèce se débrouille et ses représentants très très mal. Autrement dit, c'est le bruit et la fureur, c'est le crime et la bêtise, c'est tout ce que nous constatons en écoutant la radio, en regardant la télévision et en lisant les journaux. À moyen terme, et le moyen terme dans ces questions-là, c'est le siècle, si vous voulez. Ça va déjà mieux. Enfin, il se dégage des sens, si vous voulez. Dans la présence, ce sont des histoires à attracteurs, comme disent les physiciens et les mathématiciens. C'est-à-dire, ça va vers des solutions qui sont à peu près efficaces, si vous voulez. Et donc, c'est moins désespérant. Si vous prenez à long terme, et là, l'unité de compte, c'est le millénaire, l'espèce est admirable.
Donc, vous êtes plutôt un homme optimiste, finalement, puisque vous regardez sur une grande échelle de temps.
Mais je regarde aussi à l'échelle, au jour par jour, et là, je suis beaucoup moins optimiste.
Et là, vous êtes désespéré. En tout cas, nous ne pouvons que proposer à nos auditeurs de se plonger dans votre livre, qui, lui, ne fait que 364 pages. Il est tout à fait lisible, je rassure. D'ailleurs, vous prenez un très grand soin, Jean Béchler, à définir chaque concept, chaque mot. Comme lecteur, on est pris par la main, on est guidé dans le fil de votre raisonnement. Jean Béchler, Les matrices culturelles, c'est publié aux éditions Hermann. Merci et à très bientôt pour un autre livre, alors si j'ai bien compris, qui va sortir prochainement.
Eh bien, je l'espère.
Merci à vous.
Merci à vous, madame.